écoutez Alger chaîne 3, le journal.
Il est 18h avec vous, Nasser Amejadel. Le général d'armée Saïd Chengriha au chevet des blessés du crash survenu hier sur la base militaire de Boufarik pour s'enquérir de leur état de santé et leur apporter un soutien moral. Retour sur les méga-projets au centre d'une réunion de travail hier présidée par le chef de l'État. L'Algérie mise sur le secteur des mines pour diversifier l'économie des projets intégrés qui vont permettre une valeur ajoutée. Décryptage dans ce journal. Travaux de la troisième session des consultations politiques algéro-turques, présidée conjointement à Istanbul par Lounes Maghreben et son homologue turc. Les deux parties ont mis en avant le niveau remarquable atteint par les relations bilatérales ces dernières années. L'hécatombe sur nos routes, pas moins de 91 morts et plus de 3000 blessés depuis le début du mois de Ramadan, selon le bilan de la protection civile. Nous suivrons également dans ce journal un reportage sur l'opération collecte de sang menée par une équipe du centre de transfusion sanguine. Les prix du pétrole dépassent la barre des 87$, une première depuis juillet dernier, conséquence de la guerre déclenchée au Moyen-Orient. Et puis sport, gymnastique, deuxième étape de Coupe du Monde à Bakou en Azerbaïdjan. Kaylian Emour s'est qualifié à la finale de la poutre en se classant première des qualifications. Et en football, 22e journée de Ligue 1, 3 matchs au programme. Nous en parlerons à la fin de ce journal avec Nassim Al-Jaout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, au chevet des blessés ce vendredi, les blessés du crash d'un petit avion de transport militaire sur la base aérienne de Boufarik en première région militaire, indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général d'armée s'est rendu dans la matinée à l'hôpital central de l'armée afin de s'enquérir de l'état de santé des blessés, leur apporter ainsi qu'à leur famille un soutien moral et leur souhaitant un prompt rétablissement. Je vous souhaite de suivre cet échange justement entre le général d'armée et les blessés de ce drame, un drame qui a coûté la vie, pour rappel, à deux cadres martyrs. Pour rappel, l'avion de transport militaire de type BE-1900 qui était en vol planifié s'est écrasé hier après-midi après son décollage de la base aérienne de Boufarik avec à son bord 6 membres d'équipage dont 2 sont décédés, pour rappel, en martyr et 4 blessés. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté ses condoléances aux familles des deux cadres martyrs, les assurant de sa profonde compassion et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Condoléances également en son nom et au nom de l'ensemble du personnel ou des personnels de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Le général d'armée a également ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie pour élucider les causes et les circonstances de cet accident. Les présidents des deux chambres du Parlement, Azouz Nasser et Brahim Bourali, ont également adressé des messages de condoléances aux familles des martyrs. Des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales ont procédé hier à une opération de sauvetage en mer de 2 personnes suite au renversement d'une embarcation pneumatique à Entork dans la Wilaya d'Oran. Après le signalement du renversement d'une embarcation pneumatique, indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette opération impliquait les vedettes de sauvetage des gardes-côtes ainsi que l'hélicoptère de recherche et de sauvetage LSS relevant de l'escadron 560. D'hélicoptères de recherche et de sauvetage, les rescapés ont été secourus puis évacués vers l'établissement public hospitalier Majer Tami de Entork afin de recevoir les soins nécessaires. Une opération qui s'inscrit dans le cadre des missions humanitaire des unités des gardes-côtes du commandement des forces navales et qui reflète les efforts déployés et leur engagement constant à intervenir pour sauver des vies humaines en mer, quelles que soient les circonstances, conclut le communiqué du MDN. L'actualité ces dernières 24 heures, c'est aussi la réunion de travail présidée hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est consacrée à l'état d'avancement des méga-projets de la ligne minière Est, de la mine de phosphate et ses unités, et du projet d'extraction de zinc à Ouadamizor avant le lancement de leur exploitation effective fin mars courant. La réunion a également porté sur le projet de la route transsaharienne et la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Le chef de l'État suit de près l'état d'avancement de ces projets, insiste sur le respect du délai de réalisation. Gros plan pour commencer sur le projet de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, Smaïl Mimouni.
Parmi les projets phares figurent la ligne ferroviaire minière Béchar Tindouf Garaj Bilat de 950 km inaugurée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune le 1er février dernier. La plus grande infrastructure ferroviaire jamais réalisée en Algérie. Cette ligne stratégique reliera les mines de fer de Garaj Bilat à Béchar puis au port d'Oran pour l'exportation du minerai. Elle permettra également le transport de voyageurs en desservant plusieurs localités du sud-ouest. Dans l'est du pays, un autre projet d'envergure arrive à son terme. Il s'agit de la ligne minière reliant Bled El Hadba dans la wilaya de Tébessa au port de Annaba sur une distance de 422 km. Sa réception est attendue dès le mois d'avril prochain. Cette infrastructure stratégique permettra de transporter plus de 10 millions de tonnes de phosphate par an. Toujours dans le rail, l'Algérie poursuit la réalisation d'un méga-projet reliant Alger à Tamanrasset, une ligne ferroviaire de près de 2400 km appelée à connecter le nord au Grand Sud du pays. Prévue pour une mise en service en 2027, cette voie ferrée, conçue pour des trains pouvant atteindre 220 km à l'heure, passera notamment par Gardaïa et Insalah, contribuant au développement économique du Sahara et à l'ouverture vers les marchés africains.
Autre projet d'envergure, celui lié aux infrastructures routières, Smaïl Mimouni.
Du côté des infrastructures routières, les projets avancent bien également et à un rythme soutenu. La route stratégique Tindouf-Zouilat reliant l'Algérie à la Mauritanie sur près de 890 km devrait entrer en service durant l'année 2026. Financée et réalisée par des entreprises algériennes, cette liaison vise à dynamiser le commerce transsaharien et à renforcer les échanges avec l'Afrique de l'Ouest. Enfin, la route transsaharienne, l'un des projets les plus emblématiques du continent africain, progresse elle aussi. Longue de près de 10 000 km, elle relie Alger à Lagos au Nigeria en passant par le Niger et en traversant 6 pays. Réalisée aujourd'hui à plus de 90%, cette infrastructure majeure permettra de faciliter le commerce intra-africain et d'offrir aux pays du Sahel un accès direct aux ports méditerranéens, notamment algériens. Le comité de liaison de la route transsaharienne, chargé de coordonner ce projet continental, est d'ailleurs basé à Alger. Avec ses grands chantiers, l'Algérie confirme sa volonté de se positionner comme un hub stratégique de transport et d'échange entre la Méditerranée et l'Afrique.
Et tous ces projets sont appelés à relancer plusieurs industries tout en apportant une valeur ajoutée sur le plan social avec tout ce que cela suppose comme création d'emplois notamment. On écoute à ce propos Abdelrahman Hadef, expert en économie. Il en parle à Lina Hadouche.
C'est des projets intégrés qui vont permettre vraiment la création de valeur ajoutée le long de toute la chaîne de valeur, soit l'extraction, la transformation et aussi la production de produits finis, que ce soit pour le phosphate avec son utilisation dans divers domaines, particulièrement pour les engrais pour le secteur agricole, mais aussi pour le plomb et le zinc dans diverses industries, surtout dans le domaine de la transition énergétique. En termes d'impact social, bien évidemment, c'est des projets qui peuvent créer des milliers d'emplois et là aussi, c'est un atout important, surtout qu'aujourd'hui on mise sur le développement local pour essayer d'avoir un équilibre régional en termes de développement, mais aussi valoriser tout le potentiel des régions en termes de richesses naturelles.
Partenariat algéro-turc, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Megbemen, a présidé ce vendredi, à Istanbul, conjointement avec le vice-ministre des Affaires étrangères turc, les travaux de la troisième session des consultations politiques algéro-turques. Les deux parties ont salué à l'occasion les liens historiques et le niveau remarquable atteint par les relations algéro-turques ces dernières années. Elles ont également apprécié les avancées importantes réalisées pour renforcer le partenariat qui les unit dans divers domaines, notamment économiques et commerciaux. Les discussions ont permis de passer en revue le calendrier des prochaines échéances bilatérales et d'examiner les moyens de les exploiter pleinement afin de faire progresser les relations de coopération et de partenariat conformément à la vision et à la volonté du président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Au cours de ces consultations politiques, les deux parties ont échangé leur point de vue, analysé en accord avec les traditionnelles de consultations solides entre les deux pays sur de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'évolution de la situation au Moyen-Orient et dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que la question du Sahara occidental et de la région sahélo-saharienne. Et en raison de la situation sécuritaire qui prévaut au Moyen-Orient, la compagnie nationale aérienne Air Algérie maintient la suspension de ses vols au départ et en provenance de Doha, Beyrouth, Amman et Dubaï. La suspension de ces vols sera maintenue jusqu'à nouvel ordre, indique Air Algérie dans un communiqué. Pas de répit sur nos routes, pas moins de 91 morts et plus de 3000 blessés depuis le début du mois de Ramadan, selon la protection civile. Une véritable hécatombe. Les derniers moments avant la rupture du jeûne sont les moments les plus concernés par ces drames. On écoute le lieutenant-colonel Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile. Il est contacté par Smaïl Mimouni.
Depuis le début du mois de Ramadan, on déplore malheureusement le décès de 91 personnes sur le lieu d'accident et plus de 3000 autres personnes qui ont été blessées. Le matin aussi, après 8 heures, il y a eu un accident mortel aussi au niveau de la route avec deux personnes décédées suite à une collision entre un véhicule et un camion survenu sur la route Wilaya numéro 133 à Hassid El'A, commune de Hassir Mali aussi. Au niveau de Dulfa, on déplore 8 personnes blessées suite à une collision entre deux véhicules survenus sur la route nationale numéro 1 à la commune de Djelfa.
Les accidentés sur nos routes sont parmi les personnes qui ont le plus besoin de dons de sang. Ceci nous amène à ces collectes de sang organisées durant ce mois de Ramadan, principalement après le fthor et les prières de Tarawih à proximité des mosquées. Hassan Chmech a accompagné hier soir l'équipe du centre de transfusion sanguine à Chiraga. L'équipe a collecté plus de 60 poches de sang en 2 heures. Reportage.
Il est 21h. Nous sommes à Chiraga avec l'équipe du centre de transfusion sanguine du CHU Mustapha. L'équipe organise une collecte de sang au niveau de l'école coranique. Le docteur Belgaïd, maître assistant.
Nous sommes dans l'école coranique de Chiraga. On effectue une collecte mobile pour le don de sang. On note un afflux de donneurs.
Les fidèles se sont rassemblés pour offrir leur sang après la prière des Tarawih. Ce geste noble est vital, surtout que le mois béni enregistre une baisse du nombre de donneurs.
Là, on a un O négatif. O négatif, normalement, il est pris par tous les groupes sanguins. Donc, c'est un honneur. Je donne depuis que j'ai 18 ans.
Quand tu tarawih, quand tu salles, j'étais là où je m'as allé couler. J'ai pas besoin de dame, inshallah. Inshallah, ils jouent nas, ils me donnent.
Zina, les humains, tu pourras nous donner. Inshallah, haja ta'akhir, inshallah.
Tabarra bidem, c'est une bonne chose. Parce que même si je vois qu'il y a des gens vraiment dans le besoin, on se dit, ça peut sauver des gens pour une opération.
Fin de la collecte de sang. L'équipe a collecté 63 poches de sang.
Il est 23h30, 63 donneurs, c'est un chiffre exceptionnel. Une poche de sang peut sauver jusqu'à 3 vies.
Hein. Les collectes de sang sont vitales. Elles permettent de sauver des vies en soignant accidentés de la route, personnes atteintes de cancer et malades chroniques.
Les prix du pétrole ont dépassé la barre de 87 $, une première depuis juillet dernier. C'est la conséquence de la guerre déclenchée au Moyen-Orient. Une première donc depuis le mois de juillet. On écoute à ce propos Shaib Boutamin, expert international en pétrole, contacté par Smaïl Mimouni.
Cette augmentation est une conséquence directe des perturbations de l'approvisionnement de le détroit d'Hormuz, par lequel transite plus de 20% de la consommation pétrolière mondiale. Cette situation-là, qui fait monter la pression sur les réserves stratégiques de la Chine, qui a acheté plus de 6 millions de barils auprès des pays de Golfe, dont l'Iran. Même chose pour les États-Unis. Pour limiter le risque d'une crise d'approvisionnement mondial, les États-Unis ont annoncé hier qu'ils autorisent l'Inde à importer du pétrole russe pour une durée d'un mois. Si l'Arabie Saoudite dispose d'une alternative pour exporter son pétrole via le pipeline Petroline qui traverse le pays jusqu'à la mer Rouge avec une capacité de 5 millions de barils par jour, la situation pourrait se détériorer si les attaques visaient les infrastructures pétrolières et gazières de la région. Ça dépendra aussi de la durée de la fermeture du détroit d'Hormuz.
Au Liban, l'agresseur sioniste a intensifié ses frappes, notamment contre les villes de la banlieue sud de Beyrouth. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exigé aujourd'hui des enquêtes rapides et approfondies sur ces frappes. Une intensification qui s'inscrit dans une logique meurtrière de vengeance de l'entité israélienne suite à ses échecs militaires, comme le dit Karim Hasnaoui, Faisal Abd Sattal, politologue libanais.
Une fois de plus, l'ennemi israélien prouve que c'est un criminel qui viole même toutes les lois connues de la guerre. Le but de l'ennemi, à travers ses raids intensifs sur la banlieue sud, est de se venger des bâtiments et des pierres après son échec cuisant à présenter une victoire sur les résistants. La résistance qui jusqu'alors continue à l'affronter dans les villages situés à la frontière avec la Palestine occupée. Depuis avant-hier, la résistance assène des coups durs à l'ennemi, ce qui le rend complètement fou. Ce qui se passe actuellement, c'est un ennemi israélien et son désir de vengeance après son incapacité et son échec sur le terrain.
Les autorités d'occupation sionistes ont de nouveau empêché les fidèles palestiniens d'accomplir la prière du troisième vendredi du mois de Ramadan à la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée. La fermeture de la mosquée intervient alors que l'armée sioniste a également annoncé l'imposition de nouvelles mesures restrictives pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Ce bilan, qui date en fait, qui en reste encore provisoire, puisqu'il a été donné déjà depuis mardi, plus de 200 personnes, dont 70 enfants, ont perdu la vie dans un éboulement survenu sur un site mini artisanal à Roubaïa, dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé le ministère congolais des mines dans un communiqué officiel, un bilan encore provisoire. Ce drame est survenu mardi à la suite de pluies diluviennes exceptionnelles qui ont provoqué un glissement de terrain massif. Le ministère a fait savoir que plusieurs galeries situées dans cette zone ont été englouties. Retour chez nous, direction Rardaya, dans le cadre d'une opération de jumelage entre l'hôpital France Fanon de Blida et l'EPH de Rardaya. Cette opération d'implantation de cochléaires au profit des enfants malentendants au programme entre 12 et 14 opérations de ce genre en 5 jours. Les détails avec Mahfoud Karkar.
L'équipe médicale du CHU France Fanon de Blida poursuit les opérations de l'implantation des cochléaires pour les enfants dans le cadre d'un jumelage avec le PH Dr Terichi Ibrahim Agrdaya. Le chef de service ORL CHU Blida, professeur Khirdin Onori.
Ça c'est la deuxième mission où nous avons programmé entre 12 et 14 implantations en 5 jours. Ces enfants souffrent d'une surdité profonde. L'État algérien a mis à disposition de ces enfants des implants cochléaires. Actuellement, ils sont disponibles, alhamdoulilah. Et là, on envisage de faire cette chirurgie, inchallah, sur 5 jours, à raison de 3 par jour. Et j'espère que ça va se passer dans de très bonnes conditions.
Des parents qui se sont déplacés de différentes wilayas valorisent l'initiative médicale et la contribution de l'association Sada Agrdaya. Le jumelage médical sera une opportunité pour former le staff médical local et échanger les expériences. De Rdaya, Mahfoud Karkar pour Al-Jishan 3.
Avant de retrouver Nassima Djaout pour le sport, cette alerte émise par l'Office national de la météorologie. Des pluies sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Une alerte en vigueur ce soir à 22h jusqu'à demain 6h. Nassima Djaout, bonsoir.
Bonsoir Nassara.
On va parler gymnastique. Eliane Nemour qualifiée ce matin pour la finale de la poutre lors de la deuxième étape de Coupe du Monde qui se déroule à Bakou en Azerbaïdjan.
La championne olympique, l'Algérienne Eliane Nemour, s'est qualifiée pour la finale de la poutre après une prestation remarquable lors des qualifications. Nemour a décroché son billet pour la finale de la poutre après avoir pris la première place des qualifications avec une note de 14 833 points grâce à un degré de difficulté très élevé, 6.6, confirmant ainsi ses ambitions à viser l'une des médailles. La gymnaste algérienne s'est déjà qualifiée hier, je le rappelle, pour la finale des barres asymétriques en obtenant la troisième place des qualifications avec une note de 14 066. Kélia sera alignée demain en finale des barres asymétriques et dimanche à la poutre. Kélia Nemour, heureuse de sa performance ce vendredi dans l'épreuve de la poutre.
J'étais un peu beaucoup stressée aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réussi. En plus, j'ai tapé mon record. J'ai fait 14833. Mon record c'était 14700 ou 750, je sais plus. Du coup, je suis trop contente. Demain, je sais pas encore exactement à quelle heure je passe et combien. Je sais juste que la finale barre commence à 13h10.
C'était Kylian Emour, très attendu demain en finale de la poutre des barres asymétriques en Coupe du Monde. Sa compatriote, la jeune gymnaste algérienne Luna Hammamès, âgée de 19 ans, s'est classée 20e à la poutre et 12e au sol, ne disputera pas de finale quant à elle.
En football, première partie de la 22e journée de Ligue 2, disputée cet après-midi, est consacrée au groupe Centre-Est, favorable à l'US Chaouia. Il y aura cependant ce soir le coup d'envoi de la 22e journée de Ligue 1, Nassima.
Tout à fait. Et avant de parler des matchs de Ligue 1 ce soir, à noter que dans le groupe Centre-Est 22e journée, l'US Chaouia s'est imposé face à Tlarma 3 buts à 1. Par ailleurs, Djigel et le Mob, le big match du haut du tableau du groupe Centre-Est, n'a pas connu de vainqueur, 0 à 0 entre les deux formations. Le Mok de Constantine a gagné son derby face à l'Ice Club 2 buts à 0. Et Khmis Lkhachna s'est imposé 1 but à 0 face à Borj Menayel. Et pour le moment, l'équipe de l'US Chaouia remonte au classement et partage la deuxième place avec la jeunesse sportive djigélienne derrière le Cap Batna. Le Cap Batna, le leader, qui affrontera en déplacement dimanche prochain Chadroum El-Aïd, alors que l'US Biskra affrontera ce soir la formation de Beni Wilben. L'US Biskra aspire à revenir, à remonter à la deuxième place. Ce soir également, il y aura Beni Tour contre Magra et le MSP Batna contre l'USM Annaba. Une seule rencontre dans le groupe Centre-Ouest s'est jouée aujourd'hui, qui a vu l'USM Qlia s'imposer en déplacement devant le Wydad de Mostaganem sur le score de 2 buts à 1. Et puis en Ligue 1 ce soir, 3 rencontres à partir de 22h. La jeunesse sportive de Kabylie va recevoir ce soir le Paradou Athletic Club, deux équipes qui ont besoin de gagner des points. Également 22h, l'ASO Schlepp va recevoir l'Entente de Sétif. L'Entente de Sétif qui revient petit à petit et l'ASO Schlepp a besoin de points à domicile. Et puis le Mouloudia d'Oran qui est en bonne forme et qui enchaîne des bons résultats accueillera l'USM Khenchla ce soir à 22h.
Et puis Nassim termine par le judo. Aucun des trois Algériens engagés lors de la première journée du Grand Prix d'Autriche n'a réussi à passer le cap du deuxième tour.
Dans la catégorie des 48 kg, Qadour Houeria a passé le premier tour sans trop de difficultés devant la Roumaine Bogdan Laurent. Et avant d'être battu par la Kazakh Abida Abouzakinova, qui n'est autre que la numéro 1 mondiale. De son côté, Belkhira Khadija, chez les moins de 57 kg, exemptée du premier tour, quittera la compétition au premier tour suivant face à la Brésilienne Jessica Lima, 16e mondiale. Et enfin, dans la catégorie des moins de 66 kg, Moutetel Reis s'est qualifié au premier tour face à l'Australien Joshua Katz, avant d'être éliminé par le Britannique Frier Michael.
Merci Nassima Djaout, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, Hafid Media qui était à la réalisation, Mourad à la technique, Hossine à la régie. Merci aussi à Yassine qui était au streaming vidéo. La météo tout de suite avec Amine Mounir, l'info revient 20h. Premier flash de la soirée, ce sera avec Kali Mouali, mais à partir donc de 20h. D'ici là, portez-vous bien, merci de nous rester fidèles et sahaftarkom.
Maxwell, votre partenaire électroménager et sa gamme de lave-vaisselle Cara Series vous présentent la météo du jour. Maxwell, for a better life.
C'est l'heure de la météo avec Gamme Assurance. Gamme Assurance, votre protection et notre engagement.
Bonsoir. Le temps restera perturbé avec des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affectant à partir de 22h jusqu'à ce samedi 6h du matin. Les wilayas placées en vigilance orange pluie sont Saïda, Mascara, Rilizen, Chlef, Tiaret, Tissemsil, Taïn Defla, Tipaza, Alger, Medea, Bouira, Blida, Boumerdès et Tizi Ouzou. Les quantités estimées entre 20 et 40 mm avec des vents forts qui atteindront 50 à 60 km par heure en rafale près des côtes. Pour ce samedi, sur l'ouest et le centre, le temps sera souvent nuageux avec des pluies parfois sous forme d'averses orageuses sur le centre ainsi que les hauts plateaux ouest, gagnant progressivement l'intérieur et les régions côtières de l'ouest à partir de la soirée. Quelques chutes de neige sont observées sur les hauteurs de l'intérieur et les hauts plateaux de l'ouest et du centre-ouest, dépassant 1500 mètres d'altitude. Sur les régions de l'est, des passages nuageux avec quelques pluies parfois orageuses sur les régions côtières et intérieures ainsi que les hauts plateaux durant l'après-midi et la soirée. Le sud du pays, de la frontière algéro-malienne vers le regarde ta cible le Sahara oriental, le ciel sera souvent voilé localement nuageux avec possibilité de quelques pluies éparses à partir de la fin d'après-midi. Les températures, Météo Algérie prévoit pour ce samedi 19 degrés à Alger, Oran, 20 à Naba, Tizi Ouzou, 18 à Chleuf, 17 à Sidi Abbès, 21 degrés à Constantine, 17 à Sétif, 24 à Ardaya, 27 à Ouargla, 26 à Tindouf, 32 degrés à Lizi et 36 degrés à Boldjibadji Mouhtar. La mer sera peu agitée, devenant peu agitée à partir de la soirée. Les vents atteindront 20 à 40 km par heure.
C'était la météo avec Gamme Assurance.